France Musique. Musicopolis.
Berlioz, Rome, 1831. Après son escapade jusqu'à Nice en avril et mai 1831, motivé par un chagrin d'amour, Berlioz rentre à Rome début juin via Gênes et Florence. Pour la dernière partie du trajet, il partage sa voiture avec des moines qui vont assister à la fête Dieu, une grande procession dont tout le monde parle sur le chemin. Il raconte. Il ne fut question pendant le voyage que des merveilles qui allaient être offertes à notre admiration. Ces messieurs me déroulaient un tableau tout resplendissant de tiares, mitres, chasubles, croix brillantes, vêtements d'or, nuages d'encens, etc. Ma la musica, mais la musique. Oh, signore, lei sentirà un coro immenso. Ah, monsieur, vous entendrez un cœur immense. Berlioz s'attend donc pour la musique à quelque chose de grandiose. Et à la place, il entend, écrit-il, l'aigre et discordant fausset des castrati qui lui font entendre un insipide contrepoint. Et en guise d'orchestre, deux groupes de clarinettes canardes, de trombones rugissants, de grosses caisses furibondes, de trompettes saltimbanques qui produisent une impie et brutale cacophonie. Je ne me suis malheureusement pas trouvé à Rome pendant la Semaine Sainte, écrit Berlioz. Ainsi, je ne dirai rien du fameux Miserere, ne l'ayant pas entendu. Il paraît toutefois, d'après ce que m'en ont dit des gens de goût et de sentiment, que c'est vraiment beau, original et d'un effet magnifique auquel rien ne peut ressembler en Europe. Je le crois pieusement. D'ailleurs, le Miserere d'Allegri est aujourd'hui gravé. Il n'est pas nécessaire de recommencer le tour de force de Mozart, qui le copia pendant l'exécution, malgré les peines sévères attachées à ce rapt. J'ai lu la partition à Paris avec une respectueuse admiration. C'est un de ces monuments cyclopéens de la musique sur lesquels le temps ne peut rien. Il n'est écrit que pour des masses de voix, sans accompagnement, sans ornement mélodique et presque sans mélodie. Tous les faits résultent de la succession lente des accords. rentrant de Nice, Berlioz se retrouve à Rome qu'il commence à détester de plus en plus. Mais du moins au début, il ne reste pas inactif. Il écrit à son ami Thomas Gounet. « Je travaille beaucoup. J'achève dans ce moment un mélologue faisant suite à l'épisode de la vie d'un artiste. Ce sera pour être exécuté après la Symphonie Fantastique et cela complétera un concert. J'ai fait les paroles en venant de San Lorenzo à Rome dans mon dernier voyage. J'avais laissé derrière moi la voiture et en cheminant à pied, j'écrivais sur mon portefeuille. La musique est faite aussi, je n'ai plus qu'à copier. Il y a 6 monologues et 6 morceaux de musique, chant seul, chœur, orchestre seul ou chœur et orchestre. Je regrette bien de ne pas pouvoir vous montrer mon coup d'essai en littérature et profiter de vos conseils, mais ce n'est que différé. La scène commence après le songe d'une nuit de sabbat, au moment où l'artiste revient à la vie.
Une pareille société pour un artiste est pire que l'enfer. J'ai envie d'aller dans le royaume de Naples ou dans la Calabre, demander du service à quelque chef de bravi. Dussé-je n'être qu'un simple brigand ? J'ai souvent songé.
Oui. De poétiques superstitions, une madone protectrice, de riches dépouilles amoncelées dans les cavernes, des femmes échevelées, palpitantes d'effroi, un concert de cris d'horreur accompagné d'un orchestre de carabines, sabres et poignards, du sang et du lacryma Christi, un lit de lave bercé par les tremblements de terre. Allons donc, voilà la vie.
Pendant son séjour romain, Berlioz a l'occasion de faire la connaissance de Mendelssohn. Il le décrit longuement dans ses mémoires. C'est d'autant plus intéressant qu'il est le seul compositeur français à l'avoir bien connu. À notre première entrevue, Mendelssohn me parla de ma cantate de Sardanapale, couronnée à l'Institut de Paris, et dont mon co-lauréat Montfort lui avait fait entendre quelques parties. Lui ayant manifesté moi-même une véritable aversion pour le premier allegro de cette cantate, « À la bonne heure !» s'écria-t-il plein de joie. « Je vous fais mon compliment sur votre goût. J'avais peur que vous ne fussiez content de cet allegro. Franchement, il est misérable. » Nous faillîmes nous quereller le lendemain parce que j'avais parlé avec enthousiasme de Gluck et qu'il me répondit d'un ton railleur et surpris « Ah, vous aimez Gluck !» Ce qui semblait vouloir dire « Comment un musicien tel que vous êtes a-t-il assez d'élévation dans les idées, un assez vif sentiment de la grandeur du style et de la vérité d'expression pour aimer Gluck ?» J'eus bientôt l'occasion de me venger de cette petite incartade. J'avais apporté de Paris l'air d'Asteria dans l'opéra italien de Telemaco, morceau admirable mais peu connu. J'en plaçais sur le piano de mon collègue Montfort un exemplaire manuscrit sans nom d'auteur, un jour où nous attendions la visite de Mendelssohn. Il vint. En apercevant cette musique, qu'il prit pour un fragment de quelque opéra italien moderne, il se mit en devoir de l'exécuter. Et aux quatre dernières mesures, à ces mots « O giorno, o dolce sguardo, o rimembranza, o amor » dont l'accent musical est vraiment sublime, comme il les parodiait d'une façon grotesque en contrefaisant Rubini, je l'arrêtai et d'un air confondu d'étonnement « Ah, vous n'aimez pas Gluck ?» lui dis-je. « Comment Gluck ?» Hélas oui, mon cher, ce morceau est de lui et non point de Bellini, ainsi que vous le pensiez. Vous voyez que je le connais mieux que vous et que je suis de votre opinion plus que vous-même. Mendelssohn ne voulait pas le laisser voir, poursuit Berlioz, mais ses ripostes, ou plutôt ses bourrades inattendues, lui déplaisaient fort. Enfin, c'était un vrai porc-épic dès qu'on parlait de musique. On ne savait par quel bout le prendre pour ne pas se blesser. Doué d'un excellent caractère, d'une humeur douce et charmante, il supportait aisément la contradiction sur tout le reste, et j'abusais à mon tour de sa tolérance dans les discussions philosophiques et religieuses que nous élevions quelquefois. Un soir, nous explorions ensemble les termes de Caracalla, en débattant la question du mérite ou du démérite des actions humaines et de leur rémunération pendant cette vie. Comme je répondais par je ne sais quelle énormité à l'énoncé de son opinion toute religieuse et orthodoxe, le pied vint à lui manquer, et le voilà roulant avec force contusion et meurtrissure dans les ruines d'un très raide escalier. « Admirez la justice divine, lui dis-je en l'aidant à se relever. C'est moi qui blasphème et c'est vous qui tombez. » Cette impiété, accompagnée de grands éclats de rire, lui parut trop forte apparemment. Et depuis lors, les discussions religieuses furent toujours écartées. C'est à Rome, écrit Berlioz, que j'appréciais pour la première fois ce délicat et fin tissu musical, diapré de si riches couleurs qui a nom Ouverture de la grotte de Fingal. Mendelssohn venait de le terminer et il m'en donna une idée assez exacte, telle est sa prodigieuse habileté à rendre sur le piano les partitions les plus compliquées. Souvent, aux jours accablants de Sirocco, poursuit Berlioz, j'allais interrompre Mendelssohn dans ses travaux, car c'est un producteur infatigable. Il quittait alors la plume de très bonne grâce, et me voyant tout gonflé de spleen, il cherchait à l'adoucir en me jouant ce que je lui désignais parmi les œuvres des maîtres que nous aimions tous les deux. Combien de fois, hargneusement couché sur son canapé, j'ai chanté l'air d'Iphigénie en tauride, d'une image hélas trop chérie, qu'il accompagnait décemment assis devant son piano. Et il s'écriait « C'est beau cela, c'est beau !» Je l'entendrais sans me lasser du matin au soir, toujours, toujours. Et nous recommencions. Mendelssohn aimait aussi beaucoup à me faire murmurer, se rappelle Berlioz, avec ma voix ennuyée et dans cette position horizontale allongée sur son canapé, deux ou trois mélodies que j'avais écrites sur des vers de Thomas Moore et qui lui plaisaient. Mendelssohn a toujours eu une certaine estime pour mes chansonnettes. Après un mois de ces relations, qui avaient fini par devenir pour moi si pleines d'intérêt, Mendelssohn disparut sans me dire adieu et je ne le revis plus. À Rome, Berlioz est de mauvaise humeur. Il se souvient dans ses mémoires « J'étais méchant comme un dogue à la chaîne. Les efforts de mes camarades pour me faire partager leurs amusements ne servaient même qu'à m'irriter davantage. » Dans sa correspondance, on peut lire des phrases comme « À vrai dire, le spleen auquel je suis si sujet, comme vous savez, ne s'est jamais montré sous un aspect aussi hideux. Je sens que je deviens haineux et violent comme un enragé. » Son spleen vient en grande partie du manque de musique. Il écrit à son grand-père « Je suis forcé de vivre dans un pays où le dieu que je sers est inconnu. Si jamais Rome fut le pays de la musique, on peut dire aujourd'hui avec vérité comme Corneille, Rome n'est plus dans Rome. » Il ajoute « Il faut sortir de Paris pour sentir son immense supériorité en tout. Et une fois en Italie, il faut renoncer à la plupart des jouissances intellectuelles qui font le charme de notre capitale. Berlioz a le spleen à Rome. Néanmoins, il participe aux activités de la Villa Médicis. Il écrit à un de ses amis « Tous les jeudis, il y a grande réception chez Monsieur Horace. On y danse. Quelquefois aussi, le dimanche. Vous jugez comme cela m'amuse. » Monsieur Horace est le peintre Horace Vernet, directeur de l'Académie. Berlioz faisait certainement contre mauvaise fortune bon cœur, puisqu'il écrit bien des années plus tard dans ses mémoires « Le jeudi était le jour de grande réception chez le directeur. » La plus brillante société de Rome se réunissait alors aux soirées « fashionable » que Madame et Mademoiselle Vernet présidaient avec tant de goût. On pense bien que les pensionnaires n'avaient garde d'y manquer. En décembre 1831, Berlioz écrit à sa mère « Les salons de M. Horace Vernet sont magnifiques. Ce soir, nous allons chez M. de Saint-Aulaire, notre ambassadeur. J'ai dansé une contredanse l'autre jour, c'est insipide. » Et en janvier, à sa sœur « Nous avons toutes les semaines deux bals superbes, chez M. Horace et chez M. de Saint-Aulaire, notre ambassadeur. Je n'y danse jamais, mais je m'amuse de ce tumulte. » Avant-hier soir, écrit Berlioz, j'ai pour la première fois éprouvé une véritable émotion dans notre couvent. C'est comme ça qu'il appelle la Villa Médicis quand il ne l'appelle pas la caserne. Nous étions quatre ou cinq assis au clair de lune autour du jet d'eau qui se trouve sur le petit escalier du jardin. On tire au sort pour aller chercher ma guitare. Et comme l'auditoire était composé du petit nombre de pensionnaires que je puis souffrir, je ne me suis pas fait prier pour chanter. Comme je commençais un air d'Iphigénie en tauride, écrit Berlioz, M. Karl Vernet, le père du directeur, arrive. Au bout de deux minutes, il se met à pleurer, à sangloter tout haut, et n'y tenant plus, il se sauve dans le salon de son fils en criant d'une voix étouffée. « Horace, Horace, viens donc ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Nous pleurons tous ! Comment ? Comment ? Qu'est-il arrivé ? C'est M. Berlioz qui nous chante Gluck. « Oui, monsieur, comme vous dites, c'est à se prosterner, » me dit-il. « Allez, vous êtes un caractère mélancolique, je vous comprends, moi... » Il n'achève pas. Et pourtant, personne n'a ri. Le fait est que nous étions tous très émus. J'étais disposée, il faisait nuit, rien ne m'inquiétait sous ce portique retentissant. Je m'abandonnais comme si j'eusse été seule. De Pylade au deuxième acte d'Iphigénie en Tauride de Gluck par Yann Beuron avec les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Olivier Dupré pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Béatrice Trichet pour la réalisation.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.